Bonjour à tous. Alors, il y en a plusieurs que je connais ici, d'autres que j'ai déjà croisés et d'autres que je ne connais pas du tout, et ça, c'est encore mieux. Donc, je suis Jérémy Kouimdjian, je suis un des responsables de l'église du CEP à Marseille. Peut-être dans ce que je fais, j'ai un ministère bivocationnel, c'est-à-dire que je suis médecin à mi-temps et en même temps responsable, alors, je sais pas, pasteur, appelez ça comme vous voulez, à mi-temps pour l'église également du CEP à Marseille. Donc j'en profite pour vous passer les salutations de l'église du CEP. Et puis c'est une joie d'être à nouveau parmi vous. La dernière fois que je suis venu, vous étiez dans une salle beaucoup plus petite. Et donc, je ne peux que me réjouir de voir cette salle qui, j'en suis certain, va être très vite trop petite. Et ça, ce sera juste une grâce, une bénédiction du Seigneur. Et du coup, c'est une question aussi que je vous pose, que je nous pose ce matin, et que je te pose finalement à toi. Pour toi, et alors on peut participer à chacun, mais quel est le but, quelle est la mission de l'Église? Alors, c'est pas une question piège, hein. Vous pouvez dire librement ce que vous imaginez, ce que vous pensez de l'Église, à quoi sert l'Église, quelle est l'utilité de l'Église, comment est-ce que vous imaginez l'Église? Quel est le but de l'Église? Ouais, rayonner. Glorifier Dieu. L'éternité? Maternité? Ok. Ouais, manifester sa présence. Dans rayonner, dans manifester sa présence, il y a cette notion finalement d'être témoin, de témoigner. Et si on y réfléchit un petit peu plus profondément, c'est vrai que la nature de l'Église, c'est de montrer au monde à quoi cela ressemble quand une communauté de gens qui vit sous la royauté de Christ est là pour être des témoins dans tous les aspects de leur vie quotidienne, à chaque instant de leur vie. Et puisque finalement, c'est l'Église, en tant qu'Église, qui est appelée à rayonner, à témoigner, à proclamer l'évangile, et peut-être non chaque individu, cela veut dire que si tous doivent répondre de leur foi, peut-être que tous ne sont pas appelés à distribuer des traités dans la rue ou à présenter l'évangile en 4 points à leurs collègues de travail. Par contre, à vivre d'une manière digne de Christ et à interpeller ses contemporains par une vie centrée sur l'évangile, ça oui, c'est certain, c'est la prérogative de tous. Et il semble que précisément le Nouveau Testament dans son ensemble insiste sur cet aspect individuel pour chaque chrétien de vivre une vie centrée sur Christ, une vie centrée, transformée par l'évangile. Et on peut se poser cette question, et je crois même que c'est nécessaire, indispensable en tant qu'Église de se poser cette question. Que faut-il changer pour que l'essentiel demeure? Qu'est-ce que nous devons changer dans nos cœurs, d'abord, dans nos vies, pour que l'essentiel demeure? Et c'est à cette question que va répondre un peu cette notion. Alors, ce n'est pas un gros mot, hein, l'église missionnelle. C'est une église un terme qu'on commence à utiliser de plus en plus, peut-être dans notre famille d'église, mais pas que. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond et peu importe la sémantique, peu importe le terme, que faut-il changer pour que l'essentiel demeure? Et je propose de voir ensemble 3 points. Et le premier point, c'est une église qui est envoyée, pardon, une église qui est l'image de Dieu sur terre. Est-ce que l'église protestante évangélique de Créée est une église missionnelle en étant une église qui est l'image de Dieu sur terre? Alors, je voudrais vous présenter un principe alors, qui a été donné par un théologien qui a beaucoup réfléchi sur cette question de l'Église missionnelle. Mais finalement, ce principe, il n'est rien de plus que, je dirais, un résumé de ce que l'ensemble de la parole, en particulier du Nouveau Testament, nous dit sur l'Église. Et ce principe, le voici. L'Église est le peuple à qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire, et l'Église est le peuple par qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire au monde. L'Église est le peuple à qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire. L'Église est le peuple par qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire au monde. C'est ça, l'évangélisation. Ce n'est pas quelques activités faites par quelques-uns de manière isolée, de manière sporadique, mais l'évangélisation fondamentale, c'est dans la nature même de l'Église. Et parce qu'elle a cette responsabilité d'être le peuple par qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire au monde. Alors peut-être qu'il faut prendre un petit peu de recul pour mieux comprendre ça. Et si on part dans le premier chapitre de la Genèse, on voit que cette manifestation de la grandeur de Dieu par des êtres humains, c'était le dessein initial de Dieu. Et si on lit dès le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Adam et Ève ont été créés à la ressemblance de Dieu. Et d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse, c'est les seules créatures à qui c'est dit. Quand Dieu a créé les végétaux, c'est dit qu'il les a créés selon leur espèce. Quand Dieu a créé les animaux, il dit que ça a été, il les a créés selon leur espèce. Mais quand il crée l'homme et la femme, il ne dit pas qu'il les a créés selon leur espèce. Mais il est dit qu'il les a créés à son image. Et c'est les seules créatures qui étaient capables de refléter l'image de Dieu. C'est ça l'évangélisation. Être créé à la ressemblance de Dieu pour être l'image de Dieu dans ce monde. Parce que Dieu est trop grand, parce que Dieu est trop parfait, parce que Dieu est trop complet pour être visible par des créatures. Mais ce Dieu ne veut pas rester invisible, ce Dieu ne veut pas rester inconnu. Alors, il a créé des êtres, Adam et Ève, pour qu'ensuite, de génération en génération et vis-à-vis de toute la création, eh bien, ils puissent refléter l'image de Dieu. Et ça, c'était la mission d'Adam et Ève. Être créé à la ressemblance de Dieu pour refléter son image. Ça commence là, dès le premier chapitre de la Bible, Genèse 1. Je fais une deuxième parenthèse. Si on prend les prophètes dans leur ensemble, les grands prophètes, les petits prophètes dans leur ensemble, les prophètes nous disent que les faux dieux, vous pouvez les représenter par un bout de bois taillé, par une pierre, par la lune, par je sais pas, une citrouille, par ce que vous voulez, par n'importe quel objet inerte. Mais le Dieu vivant, le seul vrai Dieu vivant, vous ne pouvez pas le représenter par une image morte. Et l'ensemble de l'Ancien Testament nous met en garde, d'ailleurs, contre cela. Dieu ne veut pas être représenté par une image morte, mais il veut être représenté par quelqu'un qui lui ressemble, par quelqu'un qui reflète son image, par quelqu'un qui est vivant et qui est vivant par sa relation avec Dieu. Adam et Ève devaient être cette image vis-à-vis des futures générations et de toute la création. Alors malheureusement, on connaît un petit peu la suite et si on va deux chapitres plus loin, à partir du chapitre 3 de la Genèse, on voit que Adam et Ève sont tombés dans le péché et que ce péché a entraîné, hein, on a bien vu cette vidéo tout à l'heure, une rupture avec Dieu, qui a séparé complètement l'homme de Dieu, qui a déformé cette image et qui a, ne permettait plus à l'homme de refléter l'image de Dieu sur cette terre. Dans sa grâce, Dieu n'a pas enlevé à Adam et Ève cette dignité spécifique d'être humain, mais ils ont perdu cette capacité de refléter Dieu dans le monde. Et si, finalement, si on y regarde tout l'Ancien Testament, l'ensemble du plan de salut que Dieu met en place pour sauver l'humanité veut restituer à l'homme, à l'humanité, cette capacité de refléter Dieu dans le monde. Et si on continue cette histoire du plan de salut, l'homme ne pouvait pas, l'homme n'était pas capable par ses propres forces, même si c'était son désir profond, par ses propres forces, de pouvoir restituer cette image brisée. Et il a fallu que Dieu lui-même prenne les choses en main, il a fallu que Dieu lui-même descende sur cette terre et que Christ vienne accomplir ce qui était nécessaire pour pouvoir restituer cette image de Dieu sur cette terre. Et Christ a été lui-même cette image de Dieu sur terre. Et si on prend l'épître aux Colossiens, quand Paul s'adresse à cette église de Colosse et qu'il il proclame cette hymne merveilleuse au chapitre 1 sur Christ, le Fils de Dieu, il dit à cette église de Colosse, ce Fils Christ, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Jésus s'est toujours présenté de cette manière, comme étant l'image du Dieu vivant dans son humanité. Il est le second Adam, nous dit Paul, qui fait maintenant ce qu'Adam n'aurait jamais dû perdre, mais qu'il a perdu à cause du péché. Christ est l'image du Dieu vivant dans son humanité. C'est ça l'évangélisation. C'est d'abord Jésus, cet évangéliste en chef, qui vient s'incarner au milieu des pécheurs pour être l'image de Dieu, pour que les hommes voient la grandeur et la grâce de Dieu par tout ce qu'il fait, par tout ce qu'il dit dans l'ensemble de son ministère, du soir au matin, et j'ai même envie de dire du matin jusqu'au soir. L'évangélisation, ce n'est pas d'abord des réunions, même si c'est utile de faire quelques réunions, et c'est important. Je ne voudrais pas que Michael me regarde de travers quand je parle de pas faire des réunions, bien sûr c'est important, mais ce n'est pas d'abord des réunions. C'est plus fondamentalement le fait d'être l'image du Dieu sur terre. L'image du Dieu que nul ne voit. Avec mon épouse Christine et nos trois enfants, on habitait pendant un moment dans Marseille même. Ce n'était pas vraiment au centre de Marseille, mais c'était Marseille même. Et puis on a eu un projet de déménager dans un petit village à côté de Marseille. Et avant de déménager dans ce projet-là, on s'est dit, mais c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre but, qu'est-ce qu'on veut à travers ce déménagement? Et on a fait ce premier constat qu'on ne connaissait pas nos voisins, on ne connaissait pas notre entourage de là où on vivait. Et du coup, on s'est dit, mais si on déménage, ça doit être avant tout un projet spirituel pour rendre gloire à Dieu. Et comment est-ce qu'on peut réfléchir à être cette image du Dieu vivant dans ce lieu où on va déménager, comment faire un projet qui rende gloire à Dieu? Alors on a prié d'abord pour ce projet, on a prospecté, déménagé, et puis on a commencé à faire ce qu'on n'avait pas fait jusque-là, à lier des liens avec les personnes qui nous entouraient, les parents d'élèves de l'école, nos voisins, des amis, par différents moyens. On n'était pas là pour dire, pour proclamer à tout va l'évangile en quatre étapes dès que l'occasion s'en présentait. Parce que parfois, ça peut même être contre-productif de faire ça, mais plutôt de lier des relations et de pouvoir, de manière naturelle, en vivant simplement, normalement, laisser l'Esprit de Dieu agir et refléter sa gloire à travers notre vie. Refléter la gloire dans la manière dont l'évangile nous transformait. Alors je vous rassure, il y a eu beaucoup de couacs parce qu'on est dur à se laisser transformer par l'évangile. Les gens sont durs à recevoir et à voir l'œuvre que Christ peut faire, mais par sa grâce, on a eu l'occasion de créer des belles relations et des gens qui, dans la confiance, pouvaient être interpellés par notre manière de vivre. Être interpellés par « mais comment toi, en tant que médecin, tu peux consacrer autant de temps à l'église ?» C'était pour certains incompréhensible. Se laisser interpeller par différentes manières de vivre les choses. Et avec cette idée toujours de « Seigneur, comment est-ce qu'on peut toujours plus refléter ton image autour de nous ?» Et pour chacun d'entre nous, Dieu nous a placés dans ce monde comme image de Dieu. Il y a dans « être l'image de Dieu » tout d'abord le verbe « être ». il n'y a pas d'abord faire. Il y a d'abord être l'image de Dieu. Et il est utile, il est nécessaire d'être avant de faire. Bien souvent, quand on pense témoignage, quand on pense être témoin, la première chose à laquelle on pense, c'est faire. Mais il est utile de pouvoir se laisser façonner par l'évangile de Dieu et être cette image de Dieu dans le monde. Et regardez un petit peu plus loin, toujours dans cette épître aux Colossiens, quand Paul continue à parler à cette église de Colosse, qu'est-ce qu'il dit à cette église ? Il leur dit, regardez, Jésus, le second Adam, est venu pour être l'image de Dieu. Et à eux-mêmes, il leur dit, mais vous qui avez reçu cet esprit, le même esprit du Christ, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. L'Église habitée par le Saint-Esprit, individuellement temple du Saint-Esprit et collectivement temple du Saint-Esprit, l'Église est cette nouvelle humanité qui est envoyée par Dieu dans le monde pour être l'image du Dieu vivant sur cette terre. Et nous devons retrouver cette profondeur théologique de notre mission, parce que finalement, le fait de redécouvrir cette mission profonde, c'est quelque chose qui est extraordinairement pertinent pour le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui a tellement besoin de goûter, ce monde qui a tellement besoin de voir, ce monde qui a tellement besoin de toucher pour aller plus loin et connaître Dieu. Être avant de faire. Et c'est peut-être une des raisons, parce que notre manière de fonctionner est souvent d'abord de foncer tête baissée, de vouloir faire plutôt que d'être. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il est devenu nécessaire de forger un nouveau terme, hein, l'Église missionnelle, mais surtout ne nous attachons pas au terme. Ce n'est absolument pas l'essentiel. Mais qui, quelque part, veut dire une Église qui n'est pas seulement missionnaire. Alors, le terme missionnaire est un terme important, un terme noble qui signifie aller d'un point A à un point B en faisant une action spécifique. Mais le terme missionnel est quelque chose de plus profond derrière. C'est, avant de parler de l'action, nous devons parler de notre être. Et en tant qu'Église, nous sommes une mission. Nous sommes une évangélisation. Et cela doit continuer à être visible dans le culte, comme on le vit maintenant, peut-être dans les petits groupes de maison, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez en semaine. Cela doit continuer à être visible dans tout ce que nous faisons. Et une telle église, elle n'est pas définie par un endroit. Quand je pense à l'église de Cré, je ne pense pas à ce bâtiment, d'ailleurs, que je découvre pour la première fois, parce que la dernière fois, c'était justement un autre bâtiment. Parce que l'église n'est pas constituée de pierres inertes, mais l'église est constituée de pierres vivantes, de chacun d'entre vous qui constituez cette église de Cré. Et quand je veux penser à l'église de Cré, je veux penser à ces pierres vivantes qui constituent cette église. Une telle église missionnelle n'est pas définie par une personne. Ce n'est pas l'église de Michael Dufour ou l'église de Eric Wächter ou l'église de Henri. Ça n'est pas défini par une personne, c'est défini par une communauté qui comprend fondamentalement la mission de chacun. Cette église n'a pas pour but premier d'offrir un programme et des services de baptême, de mariage, d'enfance, de jeunesse, bref, d'organiser la vie religieuse, même si c'est important, parce que Michael va encore me regarder de travers, et que ça fait partie de ses prérogatives, mais ça ne doit pas être sa priorité. Ça découle du reste. L'Église est le peuple envoyé par Dieu. Et du coup, elle est Église quand elle est à la maison, quand elle est au travail, quand elle est dans la voiture, quand elle est au restaurant, quand elle est à la plage. Je ne suis pas en train de dire quand toute l'Église fait tout ça en même temps, mais quand chacun est en train de faire ça dans sa semaine, à chaque moment de sa vie. Finalement, l'Église est Église tout le temps en permanence dans ce que chacun vit 24 heures sur 24. Elle n'est pas seulement église quand elle est rassemblée, comme nous sommes là maintenant ce matin. Mais elle est aussi église quand elle est dispersée durant tout le reste de la semaine. Nous sommes, par le Saint-Esprit, individuellement en semaine et communautairement, le dimanche matin et peut-être quelques réunions rassemblées dans la semaine, nous sommes l'image de Dieu dans le monde, ce monde qui a tellement besoin de voir la grandeur et la grâce de Dieu. Et c'est important de comprendre cette notion de église rassemblée, comme nous sommes maintenant. Alors, vous voyez, c'est les petits points rouges, là, voilà, ça c'est l'EPE de Cré, ce matin, et peut-être, je ne sais pas, les réunions dans la semaine, je ne sais pas quel jour vous vous réunissiez dans la semaine, mais tout le reste du temps, elle est aussi église dispersée. Et ça, c'est essentiel de comprendre ce double mouvement. Vous savez comment fonctionne le cœur humain ? C'est assez simple. Je vais schématiser, je vais grossir exprès. Le ventricule va se dilater. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a tout le sang qui afflue dans le ventricule. Donc le sang se rassemble dans le ventricule. Et juste l'étape d'après, le ventricule se contracte et disperse tout le sang dans tout le corps. Et puis ça recommence. Il se dilate, le sang se rassemble. Il se contracte, le sang se disperse. Et à chaque fois, il prend ce sang qui vient de s'oxygéner dans les poumons pour le renvoyer dans tous les vaisseaux afin d'oxygéner l'ensemble du corps. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, ce double mouvement avec l'Église rassemblée, l'Église dispersée. L'Église rassemblée, l'Église dispersée. L'Église rassemblée, l'Église dispersée. Et je vais arrêter là parce que mamie me regarde de travers en me disant « il va me casser le vidéoprojecteur ». Vous comprenez ce double mouvement, ce cœur qui bat en permanence ? Et c'est ça le cœur de l'Église, un cœur qui est centré sur Christ. Parce que malheureusement, et ça c'est triste, mais trop d'Églises ont perdu cette vision de ce double mouvement. Et des Églises ne comprennent l'Église et ne conçoivent l'Église que quand ils sont rassemblés. Pour eux, l'Église, c'est dimanche matin. Et puis dès qu'on sort de l'Église, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus l'Église. Je me sens seul. J'ai perdu la vision de finalement pourquoi est-ce que je suis là. Il y a même alors d'autres mouvements qui, eux, carrément, ne vivent que l'Église dispersée. Ils ont oublié l'essentiel, l'importance de l'Église rassemblée où on vient se ressourcer, quelque part se réoxygéner pour pouvoir repartir. Il y a une nécessité de vivre ce double mouvement d'Église rassemblée et d'Église dispersée parce que l'Église, qui est faite de pierres vivantes, et là même à tout instant de la vie, et de la journée, et de la semaine. Cela nous amène à ce deuxième point, une église qui est envoyée pour accomplir la mission de Dieu. Est-ce que l'église de Cré est une église missionnelle en étant une église qui est envoyée pour accomplir la mission de Dieu ? Notre mission en tant qu'église s'inscrit fondamentalement, vous savez, dans cette grande prière sacerdotale de Jésus qu'il a fait dans Jean 17, juste avant d'être livré, d'être crucifié et de mourir. Il s'adresse à son Père et il prie pour ses disciples. Et voilà ce qu'il prie pour ses disciples. « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. » Et quelques chapitres plus loin, cette fois-ci, après sa résurrection, il s'adresse directement à ses disciples et ça devient même un ordre. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Souvent, l'Église est elle-même le centre du projet de l'Église. J'ai pris ce petit schéma de Daniel Lichty que je trouve assez intéressant et que je vais vous présenter. L'Église réfléchit ses projets, sa vision, en étant centrée sur elle-même. Alors, vous imaginez ces flèches, au lieu qu'elles passent à travers, elles sont toutes pointées vers l'Église. Avec une mission qui est tournée vers l'Église. Alors, ce n'est pas forcément de l'égocentrisme. Et beaucoup dans l'Église s'investissent de manière bénévole, avec de tout leur cœur, pour l'Église, parce qu'ils aiment l'Église, et c'est très louable. Mais on est piégé en mettant l'Église au centre, plutôt que de mettre la mission de l'Église, qui est la mission de Dieu, pour l'humanité. Et si nous voulons que l'Église grandisse,
Il faut réfléchir et penser l'Église autrement, avec une vision dont le centre, dont le but, n'est pas l'Église elle-même, comme un club qui serait centré sur soi et qui voudrait grandir, mais dans le centre, dans le but, soit d'être la mission de l'Église, c'est-à-dire d'être l'image de Dieu sur cette terre. Et la bonne dynamique, finalement, c'est celle-ci. C'est Dieu a tant aimé le monde. Alors le monde, vous voyez, c'est ce grand cercle bleu autour qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus est venu dans ce monde pour s'incarner. Et c'est lui, ce missionnaire en chef, pour atteindre le monde. Et là, on voit ces flèches qui visent le monde, mais qui passent à travers l'Église, parce que l'Église fait partie de son équipe. L'Église est à la suite de Christ. Et si on comprend cela, on comprend mieux pourquoi c'est important, pourquoi il est nécessaire que le projet de l'Église, que la vision de l'Église soit une vision de croissance, soit une vision de multiplication. Parce que par exemple, si on réfléchit au culte, on comprend mieux cette volonté, cette nécessité que les cultes aient cette double fonction, à la fois d'édifier les chrétiens, ceux qui ont déjà placé leur confiance en Christ, mais en même temps de permettre à ces personnes non encore chrétiennes qui vont être présentes ce jour-là au culte, de découvrir cette vérité de l'Évangile. Et là, je voudrais faire une parenthèse, une troisième parenthèse, et m'adresser peut-être à ces personnes qui aujourd'hui sont présentes, qui n'ont pas encore placé leur confiance en Christ et accepté Christ dans leur vie comme leur sauveur et leur Seigneur. Et j'ai juste envie de vous inviter à réfléchir à rejoindre l'équipe de Jésus-Christ, à rejoindre cette église qui n'est pas une église faite de pierres inertes, de murs inertes, mais qui est faite de pierres vivantes, qui s'aiment, qui s'entraident, qui vivent une communauté. Et à réfléchir à cette possibilité, et j'ose dire cette nécessité pour votre vie, de placer votre confiance en Christ. Et je ferme cette parenthèse. Alors cela, en tant qu'Église, ne veut pas nécessairement dire que toutes les réunions vont être ouvertes pour les non encore chrétiens. Mais par contre, toutes les réunions doivent être utiles, soit en étant adaptées directement à ces personnes qui ne connaissent pas encore Christ, par exemple les cultes, par exemple les groupes découvertes de la foi, de la Bible, par exemple les groupes fondation, soit en équipant chacun pour que chacun d'entre nous soyons des disciples qui grandissent et qui rayonnent, comme l'a dit Henri tout à l'heure, autour d'eux pour refléter l'image de Dieu. Et c'est peut-être l'objet des groupes de maison, c'est peut-être l'objet des groupes de croissance ou des études bibliques. Je ne sais pas ce que vous vivez à l'église de Cré. C'est la raison pour laquelle l'église missionnelle met l'accent sur des chrétiens dont la vie est toujours plus transformée par l'évangile. Et il y a donc cette notion de processus qui s'inscrit dans le temps. Et là, on en arrive effectivement à la notion de faire. Être des témoins qui rayonnent autour d'eux. Mais il y a bien le faire qui découle de l'être. Et pour que le faire découle de l'être, pour que nous soyons des témoins qui rayonnent, il est indispensable de placer au centre notre relation avec Dieu, de placer au centre notre intimité avec Dieu, de placer au centre notre vie de prière, de placer au centre notre lecture, méditation, étude de la parole de Dieu, pour que le faire découle de l'être de qui nous sommes en Christ, de vie transformée par l'Évangile qui rayonne. Alors, cela nous amène à un troisième point. Une Église qui a une vision de la mission pour la vie de tous les jours. Est-ce que l'Église protestante évangélique de Cré est une Église missionnelle en étant une Église qui a une vision de la mission pour la vie de tous les jours? Vous allez peut-être me dire, mais c'est simpliste en fait, c'est évident même. cette question. Ok, c'est bon pour nous. Mais est-ce que c'est ce qu'on vit? Est-ce qu'on tend vers cela? Si l'église de Cré est une église qui a une vision de la mission pour la vie de tous les jours, alors cela signifie, comme on l'a vu, que c'est l'église, en tant qu'église, qui doit témoigner et proclamer l'évangile et non chaque individu. Et cela signifie que, par exemple, dans le domaine de la proclamation, l'église a deux missions. La première mission, c'est d'identifier les personnes qui ont un don d'évangéliste, c'est-à-dire une capacité particulière à pouvoir proclamer l'évangile de manière simple, spontanée, facile et opportuniste. Et peut-être d'organiser des événements avec ces personnes-là à laquelle toute l'église va participer. Ça, c'est peut-être une première mission, effectivement. Mais la deuxième mission de l'église, à ce moment-là, c'est d'inspirer tous les chrétiens de l'église à vivre des vies qui interpellent parce que des vies centrées sur Christ et transformées par l'évangile. Et à ce moment-là, on ne pense pas que en termes d'événements, mais on réfléchit aussi en termes de quotidien, de chaque jour, à chaque instant de notre vie. Si l'église de Cré est une église qui a une vision de la mission pour la vie de tous les jours, alors chaque membre, chaque pierre vivante va réfléchir toujours plus à comment est-ce que je peux être toujours plus transformé par la grâce de Dieu, toujours plus transformé en tant qu'individu par cet évangile qui va faire de moi ce vers quoi j'aspire en étant toujours plus l'image de Dieu sur cette terre. Et pourtant, je sais que par nature, cela m'est impossible. Je ne peux pas. Et pourtant, Dieu nous prend là où nous sommes, comme nous sommes, pour nous transformer toujours plus à son image et pour toujours plus refléter sa gloire, son image dans ce monde. Est-ce que je suis prêt individuellement à me laisser transformer par l'évangile pour que communautairement cette église soit l'image de Dieu sur cette terre? Si l'église de Cré est une église qui a une vision de la mission pour la vie de tous les jours, alors il est nécessaire de décloisonner nos vies et de tomber nos masques de schizophrénie. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre ce que je veux dire. D'arrêter un petit peu, et je me parle à moi-même le premier, parce que je suis un champion pour ça, d'arriver avec mon masque du bon chrétien du dimanche matin. Oh mon frère, mais qu'est-ce que je suis heureux de te retrouver. Quelle joie. Et puis quand j'ai quitté la salle de l'église, il m'a vraiment gonflé celui-là aujourd'hui, encore avec ces questions. Et au fond de mon cœur, de médire sur mon frère ou sur ma sœur. D'arrêter de mettre mon masque de schizophrénie quand j'arrive le lundi matin sur mon lieu de travail et que je ne suis plus le même que j'étais la veille, dimanche matin, au culte, où je ne vais pas parler de la même manière, où je ne vais même pas être gêné d'utiliser des termes grossiers ou de parler de choses qui ne rendent absolument pas gloire à Dieu. Je vais arrêter de mettre mon masque de schizophrénie quand je suis avec ma famille, avec ma femme ou avec mes enfants qui, je sais, qui me connaissent très bien et qui ne me loupent pas, qui m'attendent au tournant parce que je ne peux pas leur cacher ce que je vis au quotidien. D'arrêter de mettre ce masque de schizophrénie quand je suis dans ma voiture et qu'il y a le gars devant moi qui n'avance pas au feu rouge, que j'ai klaxonné ou qui vient me faire une queue de poisson et que j'ai envie de traiter de tous les noms. Et qu'à ce moment-là, je ne suis pas l'image de Dieu sur terre. De décloisonner nos vies pour être ce même disciple, ce même témoin à chaque seconde de ma vie. Parce que quand Christ était sur cette terre, il était le même, qu'il soit en train de manger avec des pharisiens, qu'il soit en train d'être au temple, qu'il soit en train d'enseigner ses disciples, qu'il soit seul dans sa relation avec son Père, il était le même, il avait une seule mission. Il n'y avait pas de mensonge en lui, de schizophrénie. Il était entier. De décloisonner nos vies en imaginant ne pas être le même dans ma vie ecclésiale, dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle. décloisonner nos vies parce qu'on est appelé à être les mêmes témoins chaque jour, à chaque instant de nos vies, pour être l'image de Dieu sur terre. Si l'église de Créer est une église qui a une vision de la mission pour la vie de tous les jours, alors il y a une réflexion aussi à avoir en termes de ce qu'on pourrait appeler le temps serviteur. J'entends par là, vous allez comprendre, aujourd'hui, l'église de Créer a un pasteur, Michael Dufour, que l'église rémunère en partie et puis une autre partie par des soutiens. Et puis on se dit, c'est bien, il y a un pasteur, il a du taf. Il a de quoi faire. Surtout que il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'il fasse ça, il faudrait qu'il fasse ça. Et puis on a vite fait d'établir une super liste parce qu'en plus, il est payé pour ça. Mais on n'a pas compris à ce moment-là qu'on est tous appelés à vivre ce temps serviteur en permanence. Et je vais oser aller plus loin. Combien de temps dans la journée est-ce qu'on vit ? Quand je dis qu'on vit, c'est qu'on ne dort pas, à peu près. En moyenne, on dort combien d'heures par nuit ? Bon, c'est variable, je suis d'accord. Il y en a qui vont dormir 10 heures, d'autres vont dormir 5 heures. Allez, en moyenne, on va dire, la moyenne, c'est à peu près 8 heures par nuit, d'accord ? De sommeil nécessaire, 8 heures par nuit. Donc, ça veut dire quand même qu'on vit, on est debout 16 heures par jour. Ok ? Bon, 16 heures par jour. Si pendant 16 heures, on est chacun dans l'église, chaque pierre vivante est en mode témoin de Dieu pour son royaume, pour être l'image de Dieu. Ça veut dire à temps plein pour le royaume de Dieu, donc à temps plein pour l'église. 16 heures par jour, je ne sais pas, je vais prendre un chiffre rond, on va dire que vous êtes à peu près une cinquantaine. D'accord ? Ça fait 50 fois 16, à peu près 800 heures par jour, soit 5600 heures par semaine. Bon, on est loin des 35 heures de Michael. Si chacun prend pleinement en main cette notion qu'il est à temps plein pour l'Église, alors oui, l'Église est appelée à rayonner, à grandir, à diffuser la mission de Dieu pour l'humanité simplement parce qu'elle est, parce qu'elle vit au quotidien. Si l'église de Créer est une église qui a une vision de la mission pour la vie de tous les jours, alors il y a une réflexion profonde à avoir sur le discipulat, c'est-à-dire de perpétuer ce que Christ a lancé avec ses disciples qui font des disciples, qui font encore des disciples, qui font encore des disciples. Et peut-être à se poser des questions simples qui concernent chacun. Que veut dire être disciple de Jésus à 55 ans, quand mes enfants sont adultes, ont quitté le foyer et que j'entame une nouvelle phase de carrière? Qu'est-ce que je fais de ma vie à ce moment-là? Est-ce que ma vie, est-ce que mon projet dans cette nouvelle phase de vie, c'est d'être un témoin de Christ 24 heures sur 24 et de rendre gloire à Dieu? À quoi ressemble vivre en disciple lors d'une promotion dans le cadre du travail? Comment est-ce que je vais rendre gloire à Dieu à travers cette promotion? Comment vivre en disciple de Jésus en tant qu'adolescent ou jeune adulte? Comment considérer mon diplôme que je viens juste d'avoir, là, récemment, cette année, et considérer ce diplôme pour me dire, ce diplôme, je veux qu'il rende gloire à Dieu? Comment être disciple de Christ, la petite musique, ce n'était pas prévu, ce n'était pas pour mettre de l'émotion. Comment être disciple de Christ quand on change de travail, quand on est peut-être dans une phase de chômage, quand on devient grand-parent? Comment rendre gloire à Dieu dans cette phase de vie que je suis en train de vivre en ce moment? Comment être ce témoin auquel je suis appelé à être 24 heures sur 24 sans cloison? Faire des disciples malgré les difficultés. Et je voudrais vous dire quelque chose, c'est que cette communauté est faite de gens qui vont éprouver votre patience. Des gens qui vont vous décevoir. Ce responsable ou tel responsable va peut-être prendre des décisions avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Et nous devons accepter que tout ne va pas toujours bien marcher. Et pourtant, Cette communauté va vous permettre de grandir et de vivre en disciple de Jésus. Et je voudrais conclure. Il n'y a absolument rien de nouveau dans cette notion d'église missionnelle. Rien. Le terme peut-être est nouveau, mais en vrai, on l'a juste mis en place pour pouvoir se rappeler des choses essentielles que peut-être on a perdu dans l'héritage de ce qu'on a reçu, dans l'héritage des structures, dans l'héritage peut-être parfois rigide qui peut nous perdre un petit peu, et pour revenir à l'essentiel. L'Église est en mission depuis que Christ a envoyé ses disciples. Il n'y a rien de nouveau. Depuis qu'il les a envoyés dans le monde pour être des témoins par leur vie, par leurs paroles, par leurs attitudes, telles que lui l'a fait et à son image. Et à la suite de Christ, et en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à être des témoins qui reflétons, comme Christ l'a fait sur cette terre, l'image du Dieu vivant que nul ne peut voir. C'est ça l'Église missionnelle. Et cela n'est pas le mandat de quelques-uns, des responsables. Ah, mais maintenant, il faut que le pasteur il fasse ça, 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 ça. Il faut que les anciens ils puissent se faire ça, ça, ça. Non, c'est ma responsabilité aussi. Ce n'est pas le mandat de quelques-uns. Mais c'est le mandat de tous les chrétiens, de chaque pierre vivante de l'Église. C'est ça l'Église missionnelle. Refléter l'image et la gloire de Dieu quand l'Église est rassemblée, mais aussi quand l'Église est dispersée tout le reste du temps de la semaine. C'est ça, l'Église missionnelle. Alors, je veux prier pour que l'Église de Créé puisse, quand je dis l'Église, c'est chaque pierre vivante, puisse reprioriser dans sa vie l'essentiel. L'essentiel de se rappeler qu'en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à être l'image du Dieu vivant sur cette terre. Et je voudrais prier. Seigneur, ô Dieu, je veux d'abord et tout d'abord te rendre gloire et être reconnaissant pour cette église de Créé qui est une église qui grandit, et je ne peux que être reconnaissant d'être venu une première fois de voir cette église rassemblée dans une plus petite salle, et aujourd'hui la nécessité de se rassembler dans une plus grande salle. Et je veux continuer à prier, Seigneur, que tu puisses inspirer chacun pour être ce témoin auquel tu l'appelles à être en tant que ton disciple, pour décloisonner nos vies, pour vivre pleinement et refléter pleinement ton image sur cette terre en étant des disciples authentiques qui vivons pleinement notre foi par des vies transformées par ton évangile. Seigneur, je te prie que cette église continue de grandir, de se multiplier, que ce bâtiment devienne trop petit et que ce soit un bon problème par ta grâce, et on sait que tu pourvois. Seigneur, continue ton œuvre dans la ville de Créé et dans toute la région de Créé au travers de cette église. Amen.